franceinter.fr.
Et à la une de la science, donc aujourd'hui, la mission ExoMars, lancée ce matin depuis Baïkonour. Cette mission de l'Agence spatiale européenne vise donc à rechercher des traces de vie sur la planète rouge. Voici ce qui s'est passé ce matin à 10h30.
Voilà, ça démarre, voilà.
Passage de la tour. On voit les les spectateurs
près. Ils sont pas télé là, ils sont vraiment spectateurs. Ils sont sur place, il fait relativement froid.
Et c'est parti, on croise les doigts pour ExoMars 2016 qui s'envole pour un voyage de 7 mois. Les prochaines échéances pour TGO, normalement, il y aura une mise en orbite de TGO à 4900 km autour de la Terre.
Voilà, c'était donc ce matin dans le ciel gris de la Russie, hein, Catherine de Coppet.
Oui, c'est presque commenté comme un match de foot. Alors concrètement, les Européens et les Russes viennent d'envoyer une sonde qui va se placer dans l'orbite de Mars pour y détecter des traces de gaz. Et ce n'est que le début de cette mission qui devrait permettre de poser un rover sur la surface de la planète, donc dans un second temps.
Alors pour mieux comprendre les enjeux de cette actualité spatiale, nous sommes en ligne depuis Moscou avec vous, François Forget. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche CNRS au laboratoire de météorologie dynamique et vous êtes membre de l'équipe scientifique de cette mission ExoMars. Et puis également en studio avec nous à Paris, Philippe Hénarejos, le rédacteur en chef de Ciel et Espace. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Est-ce que le lancement s'est bien passé, François Forget? Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différentes phases de la mission?
Oui, très bien. Donc il y avait le lancement à midi et demi heure locale ici, donc 10h30 en France, avec une fusée qui marche pas toujours, une énorme fusée Proton qui est partie très rapidement. Et donc le lancement lui-même s'est très bien passé. Et en particulier, il y a toujours un petit peu de suspense avec le quatrième étage qui s'appelle Breeze et qui a effectué ses plusieurs allumages déjà. Donc tout est nominal. C'est le mot-clé qu'on entend tout le temps dans un lancement comme ça, nominal. Et il reste quand même plusieurs étapes. L'action continue ce soir à partir de 20h47 heure française. Donc en prime time, on doit rallumer le quatrième étage pendant 12 minutes pour l'injection en orbite vers Mars. Et au fur et à mesure du reste de la soirée, on aura confirmation que tout est OK. Et il y a eu dans le passé des soucis lors de cette injection vers Mars. Donc il y a encore pas mal de suspense, on croise les doigts ici. Donc on sera tous au centre des opérations, au Tsoup, à Moscou.
Concrètement, François Forget, qu'est-ce que cette fusée Proton emmène avec elle? Il s'appelle TGO, alors expliquez-nous. Présentez-nous TGO.
Vous avez donc la mission ExoMars 2016. ExoMars, c'est un programme. Donc c'est pour ça que c'est parfois un petit peu compliqué. Il y a une mission qui est lancée cette année, là, aujourd'hui, en 2016, et puis une seconde mission qui sera lancée en 2018. TGO, l'acronyme, c'est le Trace Gas Orbiter, c'est l'engin principal qui est à bord de cette fusée. Et comme son nom l'indique, Trace Gas Orbiter, elle est conçue pour observer, essayer de détecter les gaz traces dans l'atmosphère. Alors pourquoi cela? Parce que on a envie de mener l'enquête sur l'activité qui pourrait y avoir, par exemple, dans le sous-sol de Mars, une activité géochimique. On mène l'enquête sur l'éventuel volcanisme, etc. Et puis, éventuellement même, on cherche à savoir s'il y a peut-être, par exemple, une vie bactérienne dans le sous-sol. Si on devait aller sur place et faire un forage, ce serait extrêmement compliqué. Mais par contre, en reniflant, c'est-à-dire en pratique, on utilise des spectromètres, on fait de la télédétection avec des méthodes un nouveau type d'instrument. On va essayer de regarder s'il y a certains gaz traces. Le plus connu, c'est le méthane, qui pourrait être la signature d'une activité géochimique, voire biologique. Donc voilà l'objectif principal. Mais il y a plein d'objectifs. Par exemple, ce faisant, on va aussi apprendre beaucoup sur comment fonctionne le climat, l'atmosphère de Mars, ce qui est très important pour comprendre notre Terre. Hein, c'est la planétologie comparée. Et puis, il y a une caméra très sophistiquée. Il y a tout un ensemble d'instruments. Et puis, par ailleurs, vous avez donc attaché à ça, vous avez un atterrisseur qui s'appelle Schiaparelli, un nom italien, astronome italien, et qui sera largué quelques jours avant l'arrivée autour de Mars et qui se posera sur Mars, donc ce sera en octobre prochain, essentiellement conçu pour avec des objectifs technologiques. Hein, ce qu'on veut vraiment, c'est apprendre. Il se trouve que lorsqu'on fait on pose des engins sur Mars, on prend toujours énormément de marge, et là on va pouvoir faire des mesures fines pendant la descente avec des capteurs pour vraiment améliorer notre technologie pour se poser sur Mars. Et il y aura aussi un petit peu de science. On va mesurer des choses pendant la descente, puis à la surface, certains instruments qui vont fonctionner quelques jours, et notamment un capteur électrique, quelque chose de complètement nouveau, qui a été conçu en France par mon collègue Franck Montmessin, et qui va faire des, malgré une mission très courte, faire des mesures sans précédent qui vont permettre toujours de mener l'enquête. Voilà, une longue description. J'espère que j'ai répondu à la question.
Oui, très bien, François Forget. Philippe et Narijos, il n'y a plus rien à rajouter. Là.
Non, tout a été dit. Là,
cependant, quand même, ça fait depuis 40 ans qu'une mission spatiale envisageait un jour peut-être d'aller chercher des traces de vie. C'est la première fois en tout cas que ça se fait, là, hein, concrètement.
Depuis 40 ans, et là on fête à peu près l'anniversaire de la mise en orbite d'une autre mission qui s'appelait Viking, qui était une mission américaine, qui avait posé deux landers sur la planète Mars, avec des expériences spécifiques pour vraiment chercher de la vie ou des traces de vie dans le sol martien. Depuis Viking, il n'y avait pas eu de tentative. Il y a eu une tentative malheureuse en 2004 avec Beagle 2, qui était un module européen, enfin anglais, qui était accroché à la sonde Mars Express, qui s'était posé sur Mars, mais qui n'avait pas fonctionné une fois arrivé. Et donc là, c'est la première fois qu'on va vraiment chercher directement les produits de la vie. Parce que Curiosity et tous les autres,
oui, c'est ça,
ils cherchaient si Mars avait été plutôt habitable, etc. Ouais, là, on y va directement.
C'est ça.
Toutes les détections aujourd'hui, Philippe Hénarejos, de méthane sur Mars étaient incertaines jusqu'ici.
Ah oui, on a parlé du François Forget a parlé du méthane. Effectivement, il y a un petit historique avec le méthane. C'est que Mars Express, auquel je faisais allusion, qui est une sonde européenne, avait fait une détection de méthane dans l'atmosphère de Mars, mais qui était ténue et assez controversée. On se demandait si c'était pas resté dans le bruit des détecteurs. Donc, on l'avait pas revu. Entre-temps, il y a eu des observations faites depuis la Terre avec un télescope géant, avec un spectrographe, qui avait, semble-t-il, trouvé du méthane de manière saisonnière sur Mars. Mais là aussi, c'était assez controversé. Et puis, il y avait Curiosity, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est actuellement sur Mars, qui lui avait dit, ben, j'en trouve, mais en trace tellement infime que je pense qu'il n'y en a pas. Donc, c'est quand même, le méthane, c'est important parce qu'il peut avoir une origine, effectivement, volcanique, géochimique, des choses qui se passent dans le sol de la planète, mais ça peut être aussi le sous-produit d'une vie. Et donc, c'est important de savoir déjà s'il y en a. Et après, une fois qu'on le saura, bon, s'il y en a, on essaiera de savoir quelle est son origine.
François Forget, le rover que vous allez envoyer dans un second temps va permettre de faire un forage de 2 mètres de la surface de Mars. Et ça ne s'est jamais fait jusque-là. Hein. On n'est jamais allé aussi profond.
Oui, alors ça, c'est donc la seconde partie du programme ExoMars qui sera normalement lancé en 2018, si on arrive à tout terminer à temps. Et donc, là encore, vous avez un rover là vraiment européen qui va se parcourir la surface. Et effectivement, il y a un système pour forer, alors pas très profond, hein, vers 2 mètres, par exemple, mais c'est très important sur Mars parce qu'on pense que près de la surface, toutes les molécules organiques qui pourraient être des indices sur cette chimie biotiques, entre guillemets, sont probablement détruites par le rayonnement d'une part, et d'autre part, la chimie de l'atmosphère de Mars, qui est très oxydante, vous avez par exemple de l'eau oxygénée, et ça pénètre dans les premiers centimètres de la surface, et on pense que ça casse, tout le monde sait que l'oxygène stérilise, donc ça casse les molécules organiques, et donc en forant, on espère arriver à des échantillons beaucoup plus préservés. Voilà pourquoi on va essayer de faire ce forage. Mais ça, c'est pas la mission qu'on lance aujourd'hui. Mmh. Juste un petit mot pour préciser une chose.
Très vite,
oui. Très très vite. Au sujet du Curiosity, Curiosity a effectivement mesuré du méthane. Au début, il n'en a pas vu. Et puis, plus récemment, tout d'un coup, on a vu un petit nuage, un petit panache de méthane passer, augmenter la quantité de méthane mesuré pendant plusieurs semaines. Et ça a relancé l'enquête, le suspense. Donc vraiment, notre mission de 13 gaz orbiteur va être vraiment très utile pour enfin trancher sur ce débat qui ne fait qu'avoir des indices divergents et énigmatiques.
Ouais, ça va commencer à embouteiller là, sur Mars, Philippe Hénarejos, avec tous ces rovers, toutes ces sondes.
D'autant que leur longévité est incroyable, puisque vous avez par exemple Opportunity. Qui marche avec des panneaux solaires, incroyable. Et qui est là depuis 12 ans.
C'est ça.
Et qui fonctionne toujours.
Ouais. Et puis 2018 InSight, hein, c'est une autre mission américaine.
C'est une autre mission qui va, elle, s'attacher à regarder l'intérieur de la planète Mars, voir s'il y a encore des micro-séismes, des choses comme ça, sur l'activité géologique de la planète.
Côté américain.
Et on attend 20h30 donc ce soir pour confirmation vraiment du bon déroulement des
20h47,
opérations.
20h47, il y a un allumage, le quatrième allumage du fameux quatrième étage. Ouais. C'est déterminant parce que c'est celui qui va donner l'impulsion au final pour aller sur la trajectoire interplanétaire. Et ensuite, il faut encore que cet étage se sépare de la sonde pour que tout marche bien. Donc vers 21h, on sera fixé.
Merci beaucoup. Merci François Forget depuis Moscou. Merci beaucoup de nous avoir consacré ce temps-là. Et puis Philippe Hénarejos, Ciel et Espace, on retrouve bien sûr toutes les infos sur le décollage de cette fusée. fusée. Merci Catherine, à demain.
Merci, à demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique. Ce week-end, le joueur coréen Lee Sedol a fini par remporter une victoire symbolique face au robot AlphaGo. Le Go était le dernier jeu dit classique dans lequel l'homme supplantait la machine. Et bien, c'est maintenant de l'histoire ancienne puisque Lee Sedol a déjà perdu 3 manches sur 5. La dernière partie sera en direct sur YouTube dès demain 5h du matin, heure française. Le jour où Homo erectus a commencé à manger de la viande, la face de l'humanité en a été bouleversée. Il y a 2 millions d'années, nous avons commencé à manger de la viande crue mais difficile à mastiquer. Et pourtant, notre visage s'est affiné. Et bien, des chercheurs américains se sont interrogés sur le rétrécissement de nos canines et l'amincissement de nos muscles masticatoires. Ils expliquent dans Nature que c'est tout simplement parce que nous avons coupé notre viande à l'aide d'outils tranchants que notre mâchoire a trouvé sa forme actuelle, qui n'a donc pas beaucoup changé. L'affinement de notre visage aurait aussi favorisé l'émergence de la parole au sein de notre espèce. L'association Polynice vient de récolter plus d'un million de signatures pour la protection des abeilles. L'association est même allée jusqu'au Parlement européen de Strasbourg pour réclamer l'interdiction des néonicotinoïdes la semaine dernière. Ces pesticides systémiques induisent des troubles de l'orientation et de la mémoire chez les abeilles qui ne peuvent plus retrouver leur ruche. Depuis 2013, 3 de ces pesticides sont interdits, notamment dans la culture du maïs, du tournesol et du colza. Mais certaines plantes échappent encore à cette interdiction. Cette pétition fait écho à l'étude polonaise publiée la semaine dernière qui soulignait que les abeilles européennes étaient infectées par 57 pesticides différents. Et puis c'est la semaine du cerveau dans 62 pays du monde aujourd'hui. Pour en savoir davantage sur notre matière grise, et bien retrouvez jusqu'au 20 mars des ateliers en tout genre dans plus de 30 villes en France métropolitaine, comme dans les Dom-Tom. Et vous pouvez retrouver toute la programmation sur une carte interactive sur le Facebook et le Twitter de La Tête au Carré.